Bonjour, je suis Marie du blog Secret Nutritionniste. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Coralie du blog Les 6 doigts de la main. Bonjour Coralie.
Bonjour Marie.
Alors aujourd'hui, Coralie, j'ai souhaité t'interviewer pour le blog Secret Nutritionniste, mais je vais te laisser le soin de te présenter. Et de présenter tes différentes facettes aussi.
D'accord. Alors écoute, je m'appelle Coralie, donc au départ je suis maman. C'est de là que partent mes activités actuelles. Je suis maman de 4 enfants qui ont aujourd'hui 17, 13, 8 et 6 ans. Et j'ai monté un blog comme toi qui s'appelle Les 6 doigts de la main, qui permettent d'accompagner les parents sur le chemin de la parentalité positive.
D'accord. Et donc, en plus de ton blog, tu fais aussi des formations en présentiel?
Oui, tout à fait. Je fais des formations, je fais des ateliers de parents, je fais parfois des formations d'enseignants et j'interviens également dans les classes directement auprès des élèves pour apprendre à mieux vivre ensemble.
D'accord, super. Et tu dis que le début, ça a été le fait d'être maman. Est-ce que par rapport à la parentalité positive, tu as été à des séminaires ou à des formations ou
Oui, alors j'ai commencé par me former en autodidacte par des livres, en fait.
Ouais.
Et c'est en appliquant des choses dans ma famille que je me suis rendu compte qu'on avait tellement à apprendre et que parents, ça s'apprenait et que j'avais des choses à partager. Donc, j'ai commencé à animer mes premiers ateliers avant d'avoir eu une quelconque formation
Ouais.
formelle. Et puis, au fur et à mesure, quand même, j'ai enrichi un petit peu, puisque c'est un thème qui me passionnait, j'ai enrichi un petit peu, j'ai mis rajouter des cordes à mon arc, j'ai suivi des formations auprès de l'Association de la discipline positive, j'ai suivi des formations en ligne de parentalité positive, j'ai suivi des
D'accord.
formations sur les émotions à l'école d'Isabelle Filieusa. Je vais à des conférences, etc., pour continuer à m'enrichir en continu.
Donc voilà, aujourd'hui je voulais eh ben, que tu interviennes sur le blog Secret Nutritionniste pour nous expliquer finalement ta vie de maman avec 4 enfants autour des repas, autour de l'organisation des repas et aussi ben, comment tu relis ça à la parentalité positive au quotidien. Alors, est-ce qu'on peut commencer déjà par aborder l'amont des repas? Comment ça se passe chez vous pour choisir le menu. Qui choisit le menu? Est-ce que vous choisissez à l'avance, en famille? Qui va en course? Voilà. Est-ce que tu peux m'expliquer déjà ça chez toi?
Tout à fait. Alors, c'est rigolo que tu poses la question parce que chez nous, on a une organisation assez intéressante à mon avis.
OK.
C'est que j'essaye évidemment de voir quels sont les menus qui plaisent et qui plaisent moins dans la famille et de faire les courses en fonction. Donc, parfois, le repas est improvisé en fonction de ce que j'ai dans le frigo. Mais l'organisation théorique, quand on arrive à ce que ça roule. Et la suivante, c'est ma fille Alice de 13 ans qui aime bien aussi participer à la préparation des repas,
Super.
qui me fait, en fait, elle est en charge de 2 repas par semaine, deux dîners par semaine, c'est elle qui prépare complètement.
D'accord.
Mais en amont, on a 2 tableaux dans la cuisine,
Oui.
un qui est blanc et sans ligne, et l'autre qui fait les jours de la semaine.
D'accord.
Donc sur le tableau blanc, elle m'écrit les idées de menu,
Ouais.
et moi de l'autre côté, je les organise dans la semaine. Voilà, c'est-à-dire qu'au
D'accord.
début on faisait tout ensemble, et puis en fait on s'est rendu compte qu'au niveau flux c'était moins facile parce que moi j'étais un peu plus au courant de tel soir on sera pas tous là, il y aura ça, nous on sort, etc. Et donc elle me mettait plutôt les menus qu'elle avait en tête, et moi je peux plus facilement organiser mes courses, savoir que les courses seront faites ou pas à ce moment-là, et donc mettre ce menu-là avant ou après,
D'accord. Donc c'est une organisation
voilà.
en duo.
En duo,
Ouais,
exactement.
d'accord.
Alors pour les courses, c'est très simple. En général, je les fais en ligne et ils ont aussi les vrais.
D'accord, ok. Ça
Donc ça vient à peu
simplifie.
près une fois par semaine.
Ouais, ça fait un gain de temps aussi, j'imagine.
Oui, et puis jusqu'ici, on n'avait pas de voiture, alors il n'y avait pas tellement de choix.
D'accord.
Voilà.
D'accord, très bien. Alors, par rapport au repas, tu as surtout parlé du repas du soir dans l'organisation sur tes petits tableaux. Comment ça se passe chez vous pour les trois repas principaux et le goûter? Qui est présent des six de la famille? Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous êtes séparés? Est-ce que certains vont à la cantine ou
Alors, ok, je vais faire dans l'ordre.
Ouais.
Au petit déjeuner, grosso modo, on petit déjeune tous là,
D'accord. À la même
mais
heure?
pas forcément au même, voilà,
Ouais.
pas forcément au même moment.
Voilà.
Donc, au petit déjeuner, chacun s'occupe de lui-même, en fait.
D'accord.
Donc, quel que soit l'âge, les enfants, ils ont tendance à prendre des céréales. Mon mari aussi, d'ailleurs, il n'y a que moi qui fait des petits déjeuners différents.
Ouais.
Et donc, chacun se sert, sachant que la règle, c'est qu'à la fin du petit déjeuner, il faut que la table soit vide, quoi.
D'accord.
Voilà. Et en fonction des moments, bah, il y a des moments où on coïncide, c'est-à-dire qu'on est quand même tous en train de se préparer le matin. Donc il y a des
Oui.
moments où on est les uns à côté des autres en train de petit déjeuner, mais c'est pas un petit déjeuner qui a été fixé à une certaine heure. Par exemple, si les petits se réveillent plus tôt que nous, ce qui arrive parfois avant le
Oui.
réveil, dans ces cas-là, ils commencent à petit déjeuner sans qu'on se lève.
D'accord.
Ensuite, le déjeuner, tout le monde est à la cantine. Il n'y a que moi, à part le mercredi, évidemment. Alors, c'est intéressant. Il n'y a que moi qui déjeune sur place. Et soit je prends des restes, soit je me fais un plat à moi que je cuisine avec ce qu'il y a dans le frigo. Et le mercredi, puisque on a une règle chez nous, c'est pas de pâtes le soir. Donc, le
D'accord.
mercredi déjeuner, c'est pâtes.
D'accord. Ok. Très intéressant comme organisation.
Voilà.
D'accord.
Et le soir, le soir, ça dépend en fait. Malheureusement, c'est difficile. La théorie, c'est qu'on aimerait prendre le repas tous ensemble. Dans la pratique, les plus jeunes se couchent relativement tôt et mon mari n'est pas forcément là suffisamment tôt. Donc, on a une organisation souple, c'est-à-dire que les plus jeunes, les deux plus jeunes, sont toujours à table. À carrément 7h moins le quart, 7h, vraiment tôt.
D'accord.
Et en fonction des cas, ben, soit Alice, ma fille, et moi, on dîne avec eux, et mon mari et mon fils. Mon fils, il rentre souvent tard, lui, parce qu'il est en prépa. Donc, il dîne souvent pas là. Il dîne souvent à l'internat et il rentre dormir. Donc, soit on dîne à nous après. Soit à l'inverse, je fais dîner que les deux petits et puis ensuite on dîne à trois avec ma fille, ce qui est sympa aussi, ça crée une autre dynamique. Soit si nous les parents on sort, alors dans ces cas-là, Alice va dîner avec les deux petits, ou alors elle dîne toute seule une fois qu'ils sont couchés. Enfin voilà, ça c'est vraiment, ça varie beaucoup. En France, on mange tous la même chose en général.
Oui, j'imagine. Oui, j'ai pas
Voilà.
posé la question, mais c'est vrai que ça tombait sous le sens. Ok. Alors, vous mangez tous la même chose, mais alors, du coup, qui prépare et qui débarrasse?
Alors, qui prépare, en général, c'est soit moi, soit ma fille. Donc, elle est en charge de deux repas par semaine. Avant que son grand frère soit en prépa, il était en charge aussi d'un repas, maintenant plus, puisqu'il n'est plus là. Le couvert est généralement mis par les petits, et le débarrassage, tout le monde participe. Donc,
D'accord.
quand les petits partent de table, enfin, quand les petits dînent tout seuls, et bien dans ces cas-là, ils débarrassent eux leur repas. Quand ils dînent avec nous, en général, ils débarrassent leur partie parce que souvent, ils vont commencer les préparatifs de coucher pendant que nous, on termine. Donc, dans ces cas-là, ils débarrassent leur partie et ils s'en vont.
Donc même le petit de 6 ans, il voit ses frères et sœurs faire, donc il fait la même chose, il est capable de faire la même chose.
Il participe et ce que j'aime faire, mais c'est toujours une question de temps, c'est quand j'arrive à l'impliquer encore avant dans la préparation,
Ouais.
ça il aime bien. Alors ça c'est plus une question de temps, mais en revanche, le week-end par exemple, ça arrive plus souvent. Et ce qui est important pour moi, c'est qu'il y a un message de confiance qui passe là-dedans. C'est-à-dire que pour moi, la cuisine fait partie des endroits où on peut leur donner une image positive d'eux-mêmes. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai pas peur de leur donner un couteau qui coupe fort, etc. Et du coup, ils gagnent en autonomie là-dessus énormément
Oui.
et en confiance en eux.
D'accord. Et en touillant des casseroles chaudes ou des choses comme ça aussi.
Ouais, s'il y a besoin, exactement.
D'accord.
Sachant que c'est marrant parce que du coup, c'est aussi, enfin, j'ouvre peut-être sur la suite, mais Par exemple, s'il y a difficulté sur le menu,
Oui.
parfois je peux ouvrir la porte à dire si tu veux une carotte, tu peux aller la chercher. Et dans ces cas-là, même celui de 6 ans, bah, il va chercher la carotte, il l'épluche, il la coupe, etc.
D'accord, ok. On va en reparler,
Alors, c'est un... Typiquement,
effectivement.
c'est un endroit qui est assez facile pour nous parce que la cuisine est ouverte sur la salle à manger, hein. Donc, quand il s'en va, il n'est pas tout seul. C'est important de
D'accord.
le savoir aussi.
Oui. Et du coup, alors ça, c'est la routine de la semaine, on va dire. Et par exemple, les week-ends ou quand vous avez des invités, est-ce que les choses se passent différemment dans la préparation et le débarras, par exemple?
Le week-end, ça se passe pas tellement différemment, je dirais. Je crois que c'est assez similaire à notre organisation du soir, hormis que évidemment on est du coup tous ensemble,
Oui.
puisqu'il n'y a pas de question de rythme différent. Quand on a des invités, alors quand nous on a des invités sans les enfants, en général on les couche avant. Donc
D'accord.
voilà, dans ce cas ils se gèrent. Et quand s'il y a des invités, par exemple s'il y a des amis le mercredi après-midi et qu'on fait des goûters ou quoi, alors là j'ai tendance à les laisser jouer jusqu'au moment où c'est servi. Par exemple, imaginons qu'on ait fait un gâteau ou quoi, mais jusqu'au moment où c'est prêt. Mais en revanche, eux et les amis participent au fait de mettre la table et de la débarrasser. Alors, où intervient la discipline, l'éducation positive là-dedans? Ben, ça va être dans ma communication. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils s'en vont, je vais faire attention à pas dire eh oh, on s'en va pas s'en débarrasser, mais je vais plutôt dire les garçons, il y a encore des choses sur la table. Tu vois?
D'accord, ouais, dans la manière de
C'est ça, dans
d'amener.
la manière de le dire. Et du coup, on se rend compte que les invités le prennent très bien aussi dans ces cas-là. Et puis, je crois que tu posais la question du goûter aussi. Alors, nous, il n'y a que les deux plus jeunes qui goûtent. Enfin, les deux plus grands, bah, ça leur arrive, mais ils se débrouillent, hein, je ne sais pas ce qu'ils font.
D'accord.
Les deux plus jeunes, en fait, la règle, c'est que pour le goûter, on a un tiroir à goûter. Donc, ils savent qu'ils peuvent piocher soit dans la corbeille de fruits, soit dans le tiroir à goûter, enfin, hein, dans les deux souvent. Et le tiroir à goûter contient des amandes, des galettes de riz, des raisins secs, des choses comme ça.
Et du coup, ils goûtent tous les deux ou tu es avec eux quand ils rentrent de l'école
Alors ça dépend des jours. Si c'est moi qui suis allée les chercher à l'école, ils s'installent à table et ils goûtent et moi je suis à côté et on discute comment ça s'est passé l'école, etc. Mais parfois c'est pas moi qui vais les chercher à l'école et donc l'organisation est la même, sauf que c'est pas moi, quoi.
Alors, sujet épineux, du coup, comment ça se passe à table, vraiment pendant le déroulé du repas? Quand les enfants disent bah, j'en veux pas, j'aime pas ce plat, voilà. Comment accueilles-tu ça par rapport à la.
Sujet effectivement sans fin, n'est-ce pas? Parce que comme par hasard, ce dont ils veulent pas sont les légumes en général, comme
Voilà,
chez
on
tout
est
le monde.
d'accord.
Voilà, donc il y a eu au cours de notre vie, il y a eu pas mal de discussions autour de ça avec mon mari, parce qu'en tous dans la famille, on a tendance à beaucoup manger, à bien aimer manger, donc il faut quand même faire attention à ce qu'on mange. Au fur et à mesure des années, notre alimentation a évolué et on inclut de plus en plus les légumes, je veux dire même nous les adultes.
D'accord.
D'ailleurs, on est devenu quasiment végétarien.
D'accord.
Voilà, et donc, en revanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sorti du modèle il faut finir ton assiette, parce que j'ai lu des études qui expliquaient que les enfants, en
D'accord.
fait, n'apprenaient plus à écouter leur faim, ils apprenaient à penser qu'ils avaient plus faim quand l'assiette était vide, quoi. Voilà, donc on essaye d'éviter ça, mais bon, bah ça, du coup, ça se fait en essayant de pas servir trop, etc.
Oui.
D'accord. Et pour manger des légumes, alors l'idée n'est pas de les forcer et de les contraindre, mais bien de leur expliquer que le corps a besoin de légumes. Donc s'ils disent, je sais pas, alors d'abord en général, j'essaye de mettre, si je peux, j'essaye de mettre des choses en premier sur la table, qui sont justement des crudités ou des choses comme ça ils peuvent les manger avant quand ils ont faim. Donc
Oui.
en général, ça pose pas de
Ouais,
souci.
bon esprit.
Ensuite, je sais quels légumes ils aiment évidemment, et on a très souvent des dîners qui incluent en fait, ça peut être une contrainte hein, pour certains, mais qui incluent une variété de légumes. C'est-à-dire que c'est très rare qu'il y ait qu'un seul légume chez nous.
D'accord.
Donc, qui nous permet d'introduire le choix, parce que du coup, quand ils disent ah ben je veux rien, la réponse n'est pas la réponse, ça va être Ben, je comprends que tu as envie de rien et en même temps tu sais que ton corps il a besoin de légumes pour bien fonctionner, pour avoir les nutriments qu'il faut. Donc tu me dis lequel tu veux. Et donc tu préfères ça ou ça ou ça. Enfin, et le fait d'avoir le choix, ça ouvre en général les possibilités.
D'accord.
Si vraiment il n'y a rien qui plaît, comme je te disais tout à l'heure, ben, il arrive qu'ils disent, si vraiment ils sont bloqués, il arrive qu'ils disent, ah, je peux plutôt prendre une carotte et que dans ce
Ouais.
cas ils aillent dans le frigo chercher sortir une carotte par exemple.
D'accord.
Et je suis assez souple là-dessus, c'est-à-dire que je me dis tant qu'ils ont intégré le fait qu'à tous les repas il y a des légumes, c'est ça qui compte et c'est pas très grave si c'est pas exactement ce que j'ai préparé moi.
Bien sûr. Et vu le nombre que vous êtes autour de la table, du coup, avec quatre enfants et deux adultes, enfin, même si vous n'êtes pas forcément ensemble au même repas, vous avez le même contenu dans l'assiette, on va dire. Du coup, avec six personnes, ce serait peut-être une utopie de vouloir plaire à tout le monde avec un seul légume, quoi.
Mais c'est ça, c'est
Hein?
pour ça qu'en fait il y a une diversité de légumes
Eh
sur la
ben
table.
oui,
Parce que
ça c'est
si je ne
super.
faisais que les légumes qui servaient aux petits, eh ben je ne ferais jamais des choses qui nous plaisent beaucoup à nous les grands, quoi.
Eh ben oui, c'est sûr. Donc la diversité apporte vraiment, voilà, pour que tout le monde ait ce choix finalement. Et on a le droit d'avoir le choix de ne pas tous aimer la même chose, quoi.
Exactement. Donc quand il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, très souvent on les encourage quand même à regoûter. On explique que, tu sais, parfois il faut goûter 10 fois pour se mettre à aimer, etc. Tiens, ça fait longtemps, je crois, que t'as pas goûté les champignons. Tu veux regoûter pour être sûr? Et ils regoûtent et puis après ils disent, ah ben non, vraiment j'aime pas, ou etc. Mais on encourage de temps en temps à regoûter ce qu'on n'a pas goûté depuis longtemps,
Bien sûr.
mais tout en laissant la porte ouverte à non, j'aime pas.
Ouais, tout à fait. Dans le respect du goût de chacun, quoi, même des petits, finalement, hein, c'est important.
Même des petits. Alors évidemment, j'imagine que si mes petits ne mangeaient rien du tout, mon attitude serait différente, sûrement, hein. C'est toujours facile à dire quand ça marche, mais je pense que c'est toujours un peu de la poule et l'œuf. C'est-à-dire que je pense que, en fait, j'essaye là encore de passer un message de confiance, c'est-à-dire de dire, ah oui, c'est pas toujours facile d'aimer quand c'est quelque chose de nouveau, mais au bout d'un moment, quand tu vas t'habituer, tu vas voir, tu vas sûrement y apprécier, donc on regoûtera la prochaine fois. Voilà, tranquillement, sans y mettre de la pression. Et donc, au fur et à mesure, il y a des goûts qui se développent.
Bien sûr. Par rapport à un autre sujet aussi à table, est-ce que par rapport à la parentalité positive, est-ce que le moment du repas est une vraie pause détente ou est-ce qu'il vaut mieux finalement parler de ce qui s'est passé dans la journée et de dénouer les problèmes autour du repas, à ton avis?
Ah non, nous, on est plus dans un moment détente. Alors, il arrive qu'on parle de ce qui a eu lieu dans la journée parce que c'est aussi le moment où on se retrouve et on a le temps de discuter, mais c'est rare que ce soit une grande conversation, sauf le dimanche soir, parce que le dimanche soir, c'est notre soir de réunion familiale. Et donc, là, pour le coup, il y a carrément un cahier de sortie, l'ordre du jour et discussion de tout ce dont il y a à parler pour la semaine.
D'accord, super. Et ça se fait au moment du repas du dimanche soir.
Exactement.
D'accord.
Tous les 6 ensemble.
Et est-ce que ça arrive parmi les enfants que durant cette pause de détente et de convivialité, il y ait finalement quand même des conflits dans la fratrie qui surgissent pendant le repas et que finalement ça imprègne ce repas d'une tension ou un...
Ouais, ça arrive entre enfants, ça arrive entre nous aussi, hein. Ça arrive, c'est pas du tout quotidien. C'est plutôt un moment sympathique le repas chez nous. Mais quand ça arrive, on essaye de renforcer le côté, la valeur du respect à laquelle on croit. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai toujours l'accent sur le mode de communication. C'est-à-dire qu'on a le droit d'être en colère, on a le droit de poser nos limites, on a le droit de dire tout, en fait, à condition de le dire respectueusement. Donc, ça va souvent être ma remarque, mon appel, va être centré là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que tu crois que tu peux le dire gentiment? Voilà, ça, c'est vraiment ça, l'important. Et parfois d'ailleurs, et ça c'est en dehors des repas, hein, parfois on s'entraîne. C'est-à-dire que quand il y a eu une scène et que ça s'est passé pas très gentiment, comment tu pourrais le dire gentiment? Et hop, on recommence la scène.
D'accord, sous forme de petits sketchs pour
Ouais, c'est
apprendre
même
à
pas un
bien
sketch, c'est
faire.
juste de répéter, quoi.
D'accord,
De
d'accord.
reprendre,
De
ouais.
reprendre la même scène pour la faire différemment et essayer d'imprégner les mécanismes pour que ça se passe mieux la fois d'après, quoi.
Exactement. Ouais. Mais cela dit, les repas, il y a peu de conflits. Hein. Ça arrive hein, parfois. Non, c'était mon assiette, c'est pas la tienne. Voilà, bien sûr, ça peut arriver. Mais on a tendance à marquer une pause et voilà, et à réinsister sur, attends, est-ce qu'on peut se dire gentiment, qu'est-ce qui se passe? Ok. Et ça coule assez. Normalement, il n'y a pas trop de conflits autour du repas.
D'accord. En fait, en te suivant sur les réseaux sociaux, on voit que vous voyagez aussi, notamment à l'étranger. Comment se passent les repas quand vous êtes dans un autre pays? Comment vous faites connaissance avec la culture du pays et sa nourriture, par exemple?
Alors, nous, les grands, et j'inclus mes deux aînés, on adore connaître la nourriture du nouveau pays, et c'est ce qu'on cherche à faire passer au sein de toute la famille. Maintenant, on accepte évidemment la difficulté qu'il peut y avoir, surtout pour des plus jeunes, à s'adapter à des goûts vraiment différents. Donc là, par exemple, aux vacances de Noël, on est parti en Inde, et c'était vraiment très chouette. Et au niveau cuisine, moi, j'adore. C'est vrai cependant que c'est très épicé.
Eh ben oui.
Donc, on ne peut pas forcer les petits à manger de la nourriture épicée. Ce qui fait qu'ils en ont quand même été dans des restaurants indiens, parce que bah, ici on est en Inde et on mange indien, avec un lâcher-prise de notre côté sur le fait que le repas était un menu assez répétitif pour les plus jeunes, avec les galettes, tu vois, un peu type
Oui,
naan,
oui,
et
oui.
des crudités, et voilà quoi.
D'accord.
À chaque repas, ils avaient du riz, des nanes et des crudités. Mais c'est pas grave, tant qu'on sait que c'est temporaire.
Ben oui, c'est sûr. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce questionnement et les questionnements qui pourraient venir d'autres personnes aussi éventuellement?
Ce sur quoi je voudrais insister, je pense, c'est justement ce côté confiance. C'est-à-dire, chez nous, on attache beaucoup d'importance à l'aspect nutrition, au fait de manger sainement, d'avoir des légumes, etc. Et parfois, ça veut dire qu'on est tenté de forcer nos enfants à manger sain. Et je sais bien qu'on est dans une société dans laquelle c'est compliqué parce que, par exemple, moi, je leur explique que les sucreries, c'est vraiment mauvais pour eux et donc chez nous, il n'y en a jamais. Et clairement, mon enfant de 8 ans, il dit, bah, quand il y a des bonbons, j'en profite parce que je sais qu'ici, il n'y en a pas. C'est pas ce que j'aimerais lui enseigner, qu'il en profite quand il n'y en a pas. Donc, je sais que certains parents concluent, bah, il vaut mieux lui en donner de temps en temps parce que sinon, de toute façon. Et donc, c'est une question qu'on finit jamais de résoudre parce on ne sait pas quel est le meilleur choix si on force, si on force pas. Ce qui est sûr pour moi, c'est que si on force trop, de toute façon, on s'éloigne de l'objectif. Pour moi, c'est important d'essayer de lâcher prise en disant, bon, j'exige, entre guillemets, ou je fais passer des règles qui correspondent à un minimum. Donc, par exemple, chez nous, la règle, c'est il n'y a pas de repas sans légumes. Voilà, ils le savent, le corps en a besoin, etc. Et sorti de là, j'essaye de lâcher prise sur le fait de forcer trop, parce que je crois au fait que c'est ça qui marchera le mieux à long terme.
Et aussi la force de l'exemple, non? Que les grands donnent cette règle, mais appliquent cette règle, c'est-à-dire mangent des légumes avec plaisir aussi à tous les repas. C'est un bon exemple aussi pour les petits.
Ah ben c'est sûr, c'est un prérequis. Je le signale même pas parce que ça me paraît évident. Je peux
Eh ben
pas
oui,
poser une règle que je ne suis pas.
c'est ça.
C'est
Mais c'était une base évidente qu'on n'avait pas encore dite.
vrai, c'est vrai, t'as raison de le préciser. T'as raison.
Ce qui ressort aussi de ce que tu dis, c'est une grande autonomie aussi par rapport aux enfants dans la cuisine.
La cuisine, c'est un bon endroit pour faire valoir l'autonomie. C'est-à-dire que les inclure dans la préparation elle-même, dans le fait de participer à la maison en mettant le couvert, en débarrassant, remplir le lave-vaisselle, etc., c'est leur donner un rôle dans la famille. Et cette autonomie et à la fois cette contribution, elle est très importante pour nourrir le sentiment d'importance de l'enfant. Et donc, ça fait partie des endroits où justement on peut jouer en équipe et où on crée la famille. Il y a une astuce que j'ai découverte aussi pour encourager les enfants à manger des légumes, c'est leur montrer que une présentation d'un légume ne signifie pas forcément que ce légume-là est comme ça. Je m'explique. Ils peuvent ne pas aimer un légume sous une certaine forme et ça ne veut pas dire qu'il faut en conclure qu'ils n'aiment pas ce légume. Et ce que j'ai fait à plusieurs reprises, malheureusement pas aussi souvent que ce que j'aimerais, c'est faire des repas à thème en
D'accord.
prenant par exemple des haricots. Par exemple, je me souviens avoir fait la première fois, c'était avec des haricots verts. Alors c'est celui qui m'a le plus marqué, mais j'ai fait avec d'autres légumes quelquefois.
D'accord.
Où j'ai pris 4 ou 5 recettes d'haricots verts différentes,
Ouais.
cuits différemment ou assaisonnés différemment, et ensuite dégustation à table. Qui fait que chacun pouvait se rendre compte que ah ben celui-là je l'aime pas trop, mais celui-ci oui, je préfère comme ci que comme ça. Et donc ça c'est important parce que d'une part tu as de nouveau la notion du choix, c'est-à-dire c'est pas j'aime ou j'aime pas, mais c'est je préfère comme ça que comme ça
Tout à
déjà.
fait, ouais.
Mais ensuite ça permet surtout de sensibiliser au fait que la prochaine fois quand ils disent ah ben j'aime pas les haricots, c'est plutôt j'aime pas les haricots comme ça.
Cette recette-là avec des
Ça
haricots.
évite le blocage, exactement. Et donc, ça lève d'avance le blocage de la fois suivante où il y aura des haricots dans une autre recette. Ils se diront pas par défaut, j'aime pas les haricots, mais ils seront peut-être plus ouverts à goûter de nouveau pour voir si dessous cette forme-là, ils les aiment. Tu vois ce que je veux dire?
Oui. Alors, je ne sais pas si tu l'as déjà remarqué avec tes 4 enfants. Moi, j'en ai qu'un seul et c'est assez flagrant. Ses goûts peuvent être très fluctuants suivant les mois, en fait. Par exemple, je peux avoir en tête une recette qu'il adore, et puis un jour qui n'est pas fait comme un autre, enfin, les mois sont passés depuis que j'ai cette impression dans la tête d'une recette qu'il adore, et quand je la refais, eh ben, il n'aime plus. Et au contraire, il y a un aliment des fois qu'il n'a pas vraiment aimé. La fois là, il est tout à fait d'accord pour regoûter quelques mois après, ça lui pose pas de souci. Et là, il l'adore alors qu'il l'a détesté quelques mois avant. Est-ce que tu vois ça, toi, avec tes 4 enfants?
Oui et non. Je le vois parfois sur certains ingrédients, mais dans ces cas-là, je le note plus lié justement au mode de préparation. Par exemple, à un moment, j'ai eu un fils qui était fan de navets parce qu'il l'avait goûté sous une forme qui lui a beaucoup plu.
Ouais.
Et puis en fait, assez rapidement, il s'est rendu compte que moi, je savais pas le cuisiner pareil et que c'était pas la même chose.
Ouais.
Voilà. Mais sinon, j'ai plus des effets parfois de lassitude.
D'accord.
De quelque chose qu'ils aimaient beaucoup et que finalement ils ont trop mangé et que voilà,
D'accord.
que des goûts changeants par les périodes.
Alors, Coralie, ben, je pense qu'on a fait un beau tour de la question dans cette interview ensemble. Je te remercie beaucoup pour ta disponibilité.
Avec plaisir, merci Marie de m'avoir sollicité, c'était chouette de pouvoir échanger sur ce sujet.
Et puis, je mettrai ben, le lien pour ton blog juste en dessous de l'interview aussi pour que voilà, les gens qui ont envie de te connaître plus vis-à-vis de tes activités de maman et de parentalité positive puissent tout de suite trouver le document nécessaire pour trouver ton blog. Et puis, ben, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.
Également, à bientôt Marie.